des décharges d'armes à feu comme ça, il n'y en avait pas tant avant.
Non, on n'en voyait pas ça les dernières années.
Depuis 6 mois, il se passe quelque chose.
C'est la question.
C'est une bonne idée. C'est sûr que moi, je vais continuer à le porter quand même, là, que je suis enceinte.
À mon âge, je préfère le porter, respecter l'entourage.
Bonsoir. La violence par arme à feu sème l'inquiétude au Québec. Alors qu'un été mouvementé semble se préparer dans la métropole et alentour, bien, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, a rencontré aujourd'hui le chef de la Sûreté du Québec ainsi que les chefs de police de Montréal, de Longueuil et de Laval pour faire le point sur leur stratégie. À Laval, notamment, plusieurs fusillades ont eu lieu dans la dernière semaine. Un homme est mort. Puis la communauté est fortement ébranlée parce qu'il y a de très jeunes personnes qui en subissent les contre-coups. Dimanche dernier, un garçon de 14 ans a été blessé dans une de ces fusillades et il ne pourra peut-être plus jamais marcher. Mon collègue Louis-Philippe Bourdeau suit ce dossier. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Noémie.
Tu as eu des nouvelles de ce jeune garçon?
Oui, on parle de Cendric, donc un jeune qui est l'une de ses victimes collatérales de ce qui semble être une recrudescence de la violence armée dans le Grand Montréal, à Laval, entre autres. Il était de passage en provenance des États-Unis ce week-end du côté de Laval. Et en fin de soirée, il entre dans la voiture de son oncle. Et c'est à ce moment-là que le véhicule est mitraillé. Donc, son oncle qui meurt, de 28 ans, qui meurt devant ses yeux. Lui, qui est gravement blessé, reçoit des balles, notamment dans la colonne vertébrale. Il a été hospitalisé du côté de Montréal. Mais en effet, Noémie, les médecins qui craignent encore qu'il ne puisse plus se déplacer par lui-même. On a pu parler à un proche de la famille qui a voulu surtout envoyer un message à ceux qui se sont attaqués à ses proches.
As you can see, innocent folks are being hurt. Life has been changed. How do you feel about that? Did you feel like you accomplished something here? I don't think so. You're just destroying innocent life. Think about what you're doing. It's leading to nowhere.
Et sur le terrain, Noémie, les organismes communautaires de Laval qui travaillent notamment avec les jeunes, bien, sont en action, sont prêts à soutenir ceux qui ont été touchés de près ou de loin par les incidents des derniers jours. J'ai rencontré 2 travailleurs qui sont en action, prêts à les écouter.
Des décharges d'armes à feu comme ça, il n'y en avait pas tant avant.
Non, on n'en voyait pas ça les dernières années, ça c'est clair.
Depuis 6 mois, il se passe quelque chose?
C'est la question.
Bien, le premier réflexe, c'est de la tristesse, là. De dire on est rendu en 2022 et on est rendu là.
La ville de Laval fait les manchettes depuis une semaine et c'est loin d'être pour les bonnes raisons. Une fusillade fait un mort et un blessé grave, un jeune de 14 ans. Le lendemain, plusieurs coups de feu sont tirés dans un quartier résidentiel. Un adolescent aurait été la cible de l'attaque. Le lendemain, une voiture passe, tire sur un homme en plein jour, devant des enfants qui ont assisté à la scène. Dans les 3 cas, il y a des mineurs qui ont été touchés de près ou de loin par les événements et les organismes communautaires sur le terrain gèrent déjà les contre-coups de cet épisode de violence. Quel est le réflexe d'un organisme quand on voit quelque chose comme ça se produire?
C'est de se préparer à accueillir les jeunes qui ont peut-être été témoins, qui sont peut-être des amis des personnes qui ont été victimes ou même des auteurs des agressions aussi. Quand il y a un événement, quelque chose qui sort dans les médias, bien souvent, ça soulève une tollée de référence.
Dès qu'on a eu les nouvelles à travers les médias, on s'est concerté au niveau de l'équipe. Un des problèmes associés au phénomène, c'est que les jeunes ont tendance, quand ils sont inquiets, à traîner des choses qu'ils pensent qu'ils pourraient assurer leur défense comme une arme.
Il y a des jeunes qui vont dire qu'ils n'hésiteraient pas à s'armer pour se protéger. Ça aussi, c'est triste.
On parle de jeunes de quel âge?
Ceux-là avaient peut-être entre 15 et 17 ans.
Comment on peut s'expliquer qu'un jeune de 15 ans soit la cible d'une attaque comme celle-là?
J'avais la perception qu'il y avait un certain code d'honneur, même dans le milieu criminel. Je ne sais pas ce qui fait que là, cette limite-là ne tient pas. C'est pas banal, il faut s'en occuper, puis il faut trouver des solutions rapides. Une chance qu'on a déjà des choses en place, on est prêt à répondre.
J'ai discuté avec plusieurs organismes qui travaillent sur le terrain. Tout le monde s'entend pour dire qu'à Laval, il y a une bonne collaboration avec les policiers ou encore avec le système de santé. On dit même que l'argent est là pour la prévention, du moins en ce moment. La réalité de Laval est différente de Montréal en ce sens qu'il y a une concertation qui est intéressante et qui
qui peut avoir un impact dans des périodes comme celle-là?
Oui, puis qui est naturel, parce qu'à Laval, on a une île, une ville, un CLSC. Fait que quand on se regroupe, tous les acteurs sont là. De cette façon-là, on réussit à mieux cerner les besoins des jeunes puis à faire des actions à tous les sens.
On a un modèle lavallois qui s'appelle le projet SAGE.
Un organisme qui va aider les gens qui sont des côtés criminels ou de l'écancien ou qui sont à risque de tomber dans les gangs de rue.
Les intervenants voient avec lui évaluer c'est quoi les besoins et éviter qu'il se retrouve dans la rue ou
dans un gang ou
dans un réseau criminel.
Moi, je pense qu'avec ce qui est en place présentement, on va réussir à restreindre puis même probablement avoir peu de décharges d'armes à feu dans les prochaines années à moyen et long terme.
Qui manque de l'argent côté financement?
C'est sûr qu'éventuellement, avec ce qui se passe, il faut grossir les effectifs d'intervention. Au niveau de l'intervention, on ne suffira pas.
L'obligation de porter le masque sera levée demain au Québec dans presque tous les lieux publics. La consigne aura été en vigueur pendant 22 mois, c'est-à-dire depuis le mois de juillet 2020. C'est un moment charnière puisque le masque est la dernière mesure sanitaire qui est encore en vigueur au Québec. Je retrouve ma collègue Anaïs Elbouchdani. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir, Noémie.
Précision importante, il faudra néanmoins continuer de porter le masque dans les établissements de santé et dans les transports collectifs.
Oui, il va falloir tenir bon. Mais on s'est demandé du côté des transports en commun s'il allait y avoir des récalcitrants. Et j'ai parlé à des chauffeurs d'autobus qui m'ont dit qu'ils allaient attendre de voir s'ils allaient avoir à jouer à la police. Du côté de la Société des transports de Montréal, on nous dit qu'on va miser sur la sensibilisation. Il y a déjà des choses qui sont en place, par exemple des autocollants, des messages vocaux de rappel. Et là, vous pouvez le voir à l'écran, dans une déclaration écrite qu'ils m'ont envoyée, bien, on dit qu'il y a une nouvelle offensive qui se prépare pour rappeler que le masque est bien. Il est toujours obligatoire dans les transports en commun. Il y a des gens à qui j'ai parlé, puis pour eux, pour la grande majorité, ils sont contents que cette mesure d'exception demeure en place.
Je trouve ça correct pour le métro, surtout. Le métro, il fait pas trop chaud, il y a de l'air climatisé.
Il faut continuer à porter le masque parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lavent pas les mains, qui sont pas... En plus, dans des espaces confinés, il fait chaud, on a vraiment besoin de continuer à porter le masque.
C'est une bonne idée. C'est sûr que moi, je vais continuer à le porter quand même, là, que je suis enceinte, mais...
Je suis bien content, bien heureux.
Mais dans les transports, il va quand même falloir continuer à le porter.
Ouais, ça, moi, je pense que ça devrait être enlevé aussi, en fait.
À mon âge, je préfère le porter. Respecter l'entourage.
Au départ de la pandémie, c'était pour nous autres, c'était pour protéger les gens qui étaient plus vulnérables. Et là, la normalité arrive, puis c'est à moi de me protéger maintenant. Je trouve ça triste parce que, bon, collectivement, ben, ça fait encore une injustice.
Et Anaïs, donc, dans la majorité des lieux publics, le masque ne sera plus du tout exigé. Je pense aux restaurants, par exemple. Comment est-ce qu'on entrevoit ce changement dans ces lieux-là?
Bien, ça va être une période d'adaptation et d'apprivoisement. D'ailleurs, la CNSST, qui est la Commission des normes de santé et sécurité au travail, rappelle que les employeurs, bien, ils ont le droit d'exiger le masque dans les restaurants à leurs travailleurs. Et porter le masque, bien, c'est aussi recommandé si on sait qu'on va avoir affaire à des gens qui ont des problèmes de santé. C'est ce que nous rappelle l'Association des restaurateurs du Québec. Je vous laisse par contre entendre des serveurs que ma collègue Théa a rencontrés aujourd'hui.
On va avoir la joie de remontrer notre beau sourire.
On a vraiment hâte de l'enlever. C'est vraiment, ça va être un gros soulagement pour nous et pour les clients aussi qui nous comprennent pas tant bien.
J'ai l'impression que c'était comme une des grosses dernières étapes qui restait pour avoir un sentiment d'après-pandémie. Là.
Mais ça sonne comme un retour à la normale. Y en aura-t-il vraiment un jour? Ça, c'est la grande question. Surtout avec la chaleur qui arrive présentement, c'était quand même assez dur de respirer. Puis surtout, quand on était en période de canicule, c'était très, très dur.
En bout de ligne, ça va être une question de choix. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, aujourd'hui a dit que lui, personnellement, bien, il allait le porter dans certains contextes. Donc, reste à voir comment les Québécois bien, vont s'ajuster à ces nouvelles mesures.
Merci, Anaïs.
Merci.
Donc, le retrait du masque, on le sent, c'est une libération pour beaucoup de gens, mais pour d'autres, c'est tout le contraire. Les personnes dont le système immunitaire est compromis voient arriver avec beaucoup d'appréhension la journée de demain. Je reçois Geneviève Solomon, elle est directrice générale de l'Association des patients immunodéficients du Québec. Bonsoir, Madame Solomon.
Bonsoir.
Les gens que vous représentez, qu'est-ce qu'ils vont vivre demain quand ils vont se promener dans des lieux publics où presque plus personne ne portera le masque?
Bien, c'est clair que nos personnes, nos membres vont ressentir une grande vulnérabilité par rapport au retrait du port du masque. Vous savez, pour ces personnes-là, le masque est une... le fait que tout le monde porte le masque est une protection supplémentaire, étant donné qu'on ne sait pas si la personne devant nous a des symptômes de COVID ou non.
Est-ce que à quel risque ils vont s'exposer plus précisément? Quelles sont leurs vulnérabilités, par exemple, les gens que vous représentez?
Mais écoutez, on ne connaît pas la réponse vaccinale pour chaque personne. Donc, on ne sait pas si la vaccination a fonctionné chez les patients immunodéficients ou immunosupprimés. Donc, pour certaines de ces personnes-là, on est dans la même situation qu'on était avant la vaccination. Donc, pour ces personnes-là, se promener dans un environnement clos, sans masque, si veut, veut pas, ça peut avoir des effets très délétères.
Oui. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a pris la parole aujourd'hui. Il a dit ceci. Bien, il a dit qu'il n'écartait pas la possibilité de réimposer le masque en cas de septième vague, mais il dit on n'est plus là en termes de protection au Québec en ce moment. Il a dit profitons donc de l'été un peu. On est passé à travers des moments très difficiles. Donc, comment vous réagissez-vous quand vous entendez ça? Profiter de l'été, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Bien, tout d'abord, les personnes immunodéficientes sont contentes qu'on passe à une nouvelle étape, à un renouveau, à ce déconfinement, à cette nouvelle partie, là, cette nouvelle étape dans cette pandémie-là. On est content de ça. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour nous, l'été, oui, dehors, ça peut aller dans certains endroits, pas de masque, mais pour les patients immunosupprimés, ce n'est pas quelque chose qui est caduque, le masque. C'est quelque chose qui est encore en vigueur, qui devra le rester. Et tout ce qu'on souhaite, c'est que chaque personne qui aura des symptômes, bien, aura l'amabilité, la bienveillance de porter un masque pour pouvoir protéger les personnes plus vulnérables autour, comme les personnes immunodéficientes.
Vous avez lancé le printemps dernier, l'immunoclip. Parlez-moi de cet objet, à quoi il sert, qu'est-ce que c'est exactement?
Bien, l'immunoclip, c'est une petite clip qui se met sur le masque, qui est un I rouge et qui est le I qui représente l'immunodéficience, qui représente le danger aussi. Donc, c'est un I qui veut faire comprendre aux gens que si j'ai encore un masque, ce n'est pas par hypervigilance, mais bien par obligation, parce que pour moi, les effets de ne pas porter de masque pourraient être très, très dangereux pour ma santé.
Mais avez-vous peur d'être mal vu, mal reçu ou insulté si vous continuez à porter le masque alors que tout le monde autour de vous l'a enlevé?
Bien, vous savez, l'immunoclip, c'est d'abord un objet de sensibilisation, mais aussi un objet pour faire comprendre aux gens que si j'ai le masque, ce n'est pas parce que je suis hyper vigilant ou que j'ai trop peur, je suis quelqu'un qui a très peur. Oui, effectivement, les personnes immunodéficientes et immunosupprimées ont peur d'être ostracisées, ont peur d'être mis de côté, alors qu'au contraire, on veut aussi contribuer à cette nouvelle étape de la pandémie. La société, on a un grand clivage dans la société entre les gens qui étaient pro-port du masque ou du moins qui respectaient les mesures sanitaires et ceux qui les, qui les décriaient. Mais veux pas, c'est sûr que ça crée des enjeux très importants, puis ça crée une anxiété chez les personnes immunosupprimées qui n'ont pas besoin de cette anxiété-là supplémentaire.
Effectivement. Merci beaucoup, Mme Solomon, pour ce témoignage.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Plus d'un millier de personnes s'enlèvent la vie chaque année au Québec. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé aujourd'hui une nouvelle stratégie de prévention dont l'objectif est de faire passer le nombre de morts par suicide sous la barre des 1000 par année d'ici 4 ans. Simon Bourassa suit ce dossier aujourd'hui. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Le gouvernement donc mise sur une approche plus ciblée, plus personnalisée de la prévention du suicide?
Oui, exactement. C'est une stratégie donc dans laquelle on va injecter un 65 millions de dollars d'ici 2026. Plusieurs choses là-dedans. Là. Donc, c'est un chantier qui est quand même assez vaste là, de parler de prévention du suicide au Québec. Pour ça, entre autres, on veut aller essayer de rejoindre les jeunes davantage sur les réseaux sociaux. Tu sais, on a les lignes d'écoute, les lignes d'appel à l'aide, bien sûr, par téléphone, mais on se rend compte que peut-être pour une clientèle plus jeune, ce serait peut-être mieux d'utiliser une autre façon pour les joindre. T'en parlais d'entrée de jeu, hein? 3 suicides par jour au Québec, des dizaines de tentatives également, particulièrement chez les hommes adultes. Donc, on veut s'attaquer à cette problématique. Puis, la stratégie ciblée, bien, c'est ce qu'on appelle la stratégie sélective. Donc, on veut cibler des groupes, des communautés qui sont plus vulnérables avec une approche, avec un réseau de sentinelles, par exemple, en milieu de travail chez des gens qui sont plus sujets à avoir, par exemple, des pensées suicidaires ou des problématiques de santé mentale. On n'a qu'à penser à les paramédics, les gens dans les milieux policiers aussi. Donc, c'est vraiment de cibler des milieux un peu plus précis, comme l'explique le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Les mesures de santé publique, c'est des mesures qui sont populationnelles. Jusqu'à maintenant, c'était des mesures qui étaient pour la population en général. On va être capable maintenant, avec des statistiques puis des données qu'on a, d'être capable de dire, est-ce qu'on ne devrait pas cibler certaines populations pour être capable maintenant d'avoir un impact plus précis?
Le Centre de prévention du suicide, Simon, rapporte une hausse de la mortalité par suicide dans les dernières années, malgré tous les efforts de sensibilisation, hein?
Oui, ça s'est... c'était en baisse depuis les années 2000. Ça s'est stabilisé dans les dernières années. Et là, au cours des deux dernières années, il y a une hausse. La pandémie y joue très certainement. Et là, donc, on veut vraiment s'attaquer au problème. Il y a une augmentation qui est marquée au cours des deux dernières années. Ce que dit l'Association de prévention du suicide du Québec, c'est dire qu'il y a de la sensibilisation à faire également auprès des professionnels de la santé.
De sensibiliser les médecins, par exemple, au fait que quand on donne des prescriptions de médicaments à des personnes suicidaires, qui présentent un risque suicidaire, de peut-être trouver des stratégies pour faire en sorte qu'au lieu de donner, quand la personne va à la pharmacie, qu'on lui donne des médicaments pour un mois, mais qu'on lui donne pour 3 jours, une semaine maximum, de manière à éviter que la personne se retrouve avec une quantité importante de médicaments.
Il y a également, bien sûr, Noémie, des mesures particulières pour les communautés autochtones qui font partie de ce plan.
Intéressant. Merci beaucoup, Simon.
Au revoir.
Je poursuis la discussion avec la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Bonsoir, Geneviève. Merci de vous joindre à nous. Comment est-ce que vous accueillez cette annonce du gouvernement en prévention du suicide? C'était un besoin criant en ce moment? Ah, je crois que vous êtes peut-être sur mute, en sourdine, on ne vous entend pas. Ah! On va tenter de rétablir la communication avec vous un peu plus tard. On revient tout de suite. Alors, on a retrouvé la communication avec notre invitée, la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Bonsoir, Geneviève.
Rebonsoir, Noémie.
Bonsoir. Alors, je vous entends très bien. On vous reçoit pour parler de cette annonce du gouvernement Legault qui déploie une nouvelle stratégie de prévention du suicide. 65 millions de dollars, une stratégie adaptée à différentes clientèles. Puis l'objectif, c'est faire baisser de 10 % le nombre de morts par suicide chaque année au Québec, qui dépasse actuellement le millier. Donc, comment est-ce que vous accueillez ces nouvelles sommes et cette nouvelle stratégie?
C'est certain qu'on va saluer ces investissements, cette volonté de faire de la prévention du suicide un enjeu là, à, je dirais, attaquer de front. Donc, le suicide, la prévention du suicide, c'est ça, c'est un gros enjeu. Hein. Souvent, ça va faire peur, ça active beaucoup de malaise. Alors, ce que j'apprécie particulièrement, c'est de se dire, non, on va vraiment aller de l'avant, on veut en parler, on veut rendre des ressources beaucoup plus accessibles. Donc, ça, c'est très, très important parce que c'est préoccupant. Quand on parle de 3 Québécois par jour qui vont décéder par suicide, c'est beaucoup. Il faut penser à toutes les tentatives, aux pensées suicidaires aussi, qui ne vont pas nécessairement évoluer vers une tentative de suicide, mais qui peuvent le faire. Mm-hmm. Alors, il faut vraiment absolument s'intéresser à ça.
Les personnes qui sont les plus à risque de s'enlever la vie au Québec, ce sont les hommes de 50 à 64 ans. Pourquoi? Oui.
Il y a différents facteurs. C'est sûr que tout va dépendre du parcours de vie qu'on va avoir, puis de différents, je dirais, paramètres dans notre vie. Mais ne serait-ce que le rapport aux émotions. Donc, qu'est-ce que je fais quand je me sens pas bien, quand j'ai un niveau de détresse qui est important? Est-ce que j'ai justement tendance à aller verbaliser, à être à l'aise avec ces émotions-là ou au contraire, je vais les garder en moi et ça va s'accumuler. Juste un facteur comme ça peut être très important. Si ça ne fait pas partie de mes habitudes, de prendre ces émotions-là, puis de les élaborer, de les verbaliser, ça peut faire une différence. Alors, chez les hommes, on sait que d'une façon habituelle, c'est moins présent. Donc, tranquillement, ça évolue. Il y a de belles initiatives en ce sens-là. Mais ça, je dirais que c'est un des facteurs principaux. Et d'autres facteurs de stress qui ne sont pas nécessairement les mêmes, donc dans le vécu d'un homme. Mais gardons en tête que tout le monde peut être à risque.
Mm-hmm.
Et
tout le monde doit demander de l'aide s'il souffre. Là, le problème au Québec en ce moment, c'est que les ressources en matière de soins psychologiques, elles sont débordées. Est-ce que vous le vivez dans votre pratique à vous? Êtes-vous submergé de demandes en ce moment?
Mais tout à fait. On sait qu'au public, il y a entre 6 mois à 2 ans d'attente, c'est énorme, mais c'est rendu comme ça aussi au privé. Alors oui, personnellement, les demandes, je ne peux pas les accepter. Nos listes d'attente ferment parce qu'on ne suffit pas à la tâche. Alors, je ne veux pas décourager personne. Appelez quand même, mettez vos noms sur les listes d'attente que vous pouvez. À un moment donné, il y aura un appel. Mais ça montre à quel point les besoins sont là et on doit investir pas ponctuellement, de façon vraiment récurrente. Alors, tant mieux des initiatives comme celle-là, mais ça doit être encore plus mm-hmm. par rapport à d'autres enjeux de santé psychologique. Et à très long terme, on doit vraiment considérer ces investissements-là comme essentiels. Ouais. C'est la qualité de vie et la détresse qui est en jeu, c'est fondamental.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis si vous songez au suicide ou vous connaissez quelqu'un qui y songe, bien, appelez au 1-866-APPEL 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci d'avoir été là.
Ça a été un plaisir.
Faisons le point sur la guerre en Ukraine où les hostilités durent maintenant depuis 79 jours. Dans le Donbass, dans l'est du pays, les forces ukrainiennes ont décimé un contingent russe qui tentait de traverser une rivière stratégique. Et par ailleurs, les États-Unis multiplient leurs efforts pour tenter de rétablir la paix. Sabrina Rivet nous résume les derniers développements. Bonsoir.
Salut Noémie.
Donc, les États-Unis demandent à la Russie d'instaurer, de respecter un cessez-le-feu.
En fait, c'est qu'il y a eu une première discussion aujourd'hui entre le ministre américain de la Défense et son homologue russe. Et pendant cette discussion-là, eh bien, il a demandé un cessez-le-feu en Ukraine de la part de la Russie. Pas eu de réponse à tout le moins encore pour l'instant, tout ça. Ce que vous voyez d'ailleurs en ce moment, ce sont des images de Mariupol. Bref, il a aussi réitéré l'importance de maintenir des lignes de discussion. Et là, il faut dire que les politiciens continuent vraiment d'être très actifs dans le conflit en Ukraine. Il y a les ministres des Affaires étrangères du G7 qui ont mentionné aujourd'hui qu'ils vont soutenir l'Ukraine jusqu'à une victoire du pays contre la Russie. Et il y a aussi l'Union européenne qui a annoncé une aide supplémentaire de 500 millions d'euros à Kiev. Et d'ailleurs, lors d'une rencontre de l'OTAN aujourd'hui, bien, il y a le représentant de la France qui a dit en avoir marre hein, aussi des mensonges, selon lui, de Vladimir Poutine, de ce qui se passe en fait sur le terrain. Et tout de suite, d'ailleurs, on peut aller l'écouter.
Les Nations unies ont clairement indiqué à plusieurs reprises et encore aujourd'hui qu'elles ne possédaient aucune information sur ce sujet, aucune. La diffusion répétée de fausses informations sur les armes biologiques ne transformera pas ces allégations en réalité.
Et Sabrina, le premier procès pour crimes de guerre va débuter la semaine prochaine en Ukraine.
Il va s'ouvrir en fait mercredi le 18 mai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une première comparution de ce jeune homme de 21 ans. Vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Il s'agit de Vadim Chichimarin lors de sa comparution aujourd'hui. C'est une audience préliminaire du côté de Kiev parce que le procès la semaine prochaine va se passer dans la capitale de l'Ukraine. Lui, en fait, il est accusé d'avoir tué un Ukrainien âgé de 62 ans, la victime qui circulait à bicyclette sur le bord de la route lorsque Chichimarin aurait tiré sur l'individu qui n'était pas armé. Alors évidemment qu'on va suivre ça là-dessus la semaine prochaine.
Et Sabrina, la Finlande hier a fait savoir qu'elle voulait se joindre à l'OTAN et ça continue de faire jaser aujourd'hui.
Oui, parce que bon, c'est une demande de la Finlande, la Suède aussi qui aimerait bien se joindre à l'OTAN étant donné tout ce qui se passe du côté de l'Ukraine. On a aussi également appris dans les dernières heures qu'en représailles, la Russie va suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande dès demain. Justement, ben Noémie, tu vas pouvoir en parler plus en détail avec le politologue spécialiste de l'Europe, Frédéric Mérand.
Merci Sabrina.
Ça fait plaisir.
Alors, on va aller le retrouver immédiatement, notre invité Frédéric Mérand. Je le joins à Salzbourg, en Autriche. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, Noémie.
Donc, revenons à la base. Hein. Pourquoi est-ce que la Finlande et la Suède... donc, la Finlande, c'est plus officiel. Là, ce que je comprends, c'est que la candidature sera présentée formellement dimanche. La Suède signale son intention assez claire. Pourquoi se joindre à l'OTAN, Frédéric?
Alors, la Suède et la Finlande sont prêtes à se joindre à l'OTAN parce que l'opinion publique dans ces deux pays a changé considérablement depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour des raisons différentes. C'était deux pays où l'opinion publique était hostile à l'idée d'appartenir à l'Alliance Atlantique, à l'OTAN, mais face à la menace russe qui s'est révélée de manière absolument brutale et spectaculaire cet hiver, l'opinion publique a complètement basculé. Donc en Finlande, par exemple, on est passé du tiers de la population qui était favorable à une adhésion à l'OTAN aux deux tiers, voire aux trois quarts de la population. Donc, le gouvernement a pris acte et déposé une demande d'adhésion à l'OTAN.
Et donc, est-ce qu'il suffit de déposer sa demande et de manifester son intérêt pour être admis au sein de l'OTAN ou il y a toutes sortes d'étapes à franchir?
Bien sûr que non. Sinon, l'Ukraine ferait partie de l'OTAN depuis longtemps, puisque ce pays voulait en faire partie. Il faut que les membres actuels de l'OTAN soient unanimement favorables. Alors, la plupart des signaux sont au vert, puisque la vaste majorité des États de l'OTAN, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, ont dit qu'ils étaient prêts à accepter la Finlande et la Suède rapidement, c'est-à-dire dans quelques mois. Mais il y a un obstacle possible, c'est la Turquie. La Turquie, pour ses propres raisons, qui brandit la menace d'un droit de veto. Alors, il suffirait qu'un seul pays membre de l'OTAN s'y oppose pour que ni la Finlande ni la Suède ne puissent se joindre à l'OTAN. Mais on ne sait pas à l'heure actuelle si la Turquie fait ça un peu pour obtenir des concessions sur d'autres sujets.
Ah, ça, c'est intéressant. Bon, Poutine a dit maintes fois qu'il riposterait si l'OTAN s'élargissait à ce point jusqu'à ses portes. On ne peut pas imaginer que Poutine va rester les bras croisés pendant que l'OTAN prend de l'expansion jusqu'à sa frontière. Parce qu'on le rappelle, la Finlande partage une frontière très, très longue avec la Russie. Donc là, cette menace existentielle qu'il craint, qu'il brandit, elle se concrétise dans sa tête, là.
Absolument, 1300 kilomètres de frontière commune avec la Russie. En fait, ça serait la plus grande frontière entre l'OTAN et la Russie si la Finlande se joint à l'Alliance Atlantique. Et en plus, Vladimir Poutine avait dit en décembre 2021, il n'y a pas si longtemps, que son objectif, c'était que l'OTAN se retire derrière ses frontières pré-élargissement de 2004, c'est-à-dire se concentre seulement en Europe de l'Ouest. Donc, si la Finlande ou la Suède se joignent à l'OTAN, c'est un désaveu terrible pour Vladimir Poutine. Alors, il va réagir, il va certainement faire des menaces très graves, il y aura probablement des gestes d'éclat, mais il faut voir aussi qu'en ce moment, il a les mains pleines en Ukraine, il a énormément de difficultés même à tenir les positions russes en Ukraine, donc il n'est pas du tout certain qu'il soit capable de s'opposer militairement à une éventuelle adhésion de la Finlande ou de la Suède.
Mais à terme, est-ce que ça ne pourrait pas aggraver, mettre encore plus le feu aux poudres plutôt que de contenir l'agressivité de la Russie, au contraire, la galvaniser, non?
Alors, c'est effectivement une préoccupation et c'est ce que les Russes vont mettre de l'avant. Comme ils mettent de l'avant le fait que le soutien des Occidentaux à l'Ukraine, de leur point de vue, les rendre encore plus fâchés, si vous voulez. Donc ça, c'est un argument qui va être utilisé. Par contre, il y a peu de choses qui peuvent se mettre, à mon avis, sur le chemin d'une adhésion de la Finlande ou de la Suède. Ça
joue d'un très grand consensus. Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous. À bientôt.
Au revoir.
C'est confirmé, le pape François sera de passage au Canada du 24 au 30 juillet prochain. Il se rendra à Edmonton, à Québec, ainsi qu'à Iqaluit. Rappelons que le souverain pontife avait présenté ses excuses aux peuples autochtones le 1er avril dernier au Vatican pour la responsabilité de l'Église dans les atrocités commises dans les pensionnats pour autochtones. Le premier ministre Justin Trudeau a salué la venue du pape François en affirmant qu'il s'agit d'une étape nécessaire dans le processus de réconciliation. Notre journaliste à Québec, Thomas Bourgault, a recueilli quelques réactions à cette visite papale.
Parce que l'Église catholique, là, c'est bien beau s'excuser, là, mais peut-être qu'ils pourraient partager un peu de leur richesse, là, tu sais, là. Ces gens-là, là, ils n'ont jamais été indemnisés pour rien.
Pas nécessairement. Il y a des gens qui n'ont besoin, mais ma vie n'est pas
est pas axée, c'est-à-dire je dépends pas de la religion pour passer une très belle vie.
Moi, personnellement, ça m'est égal, mais je sais pas si les gens, en général, aiment ça.
Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde au Québec qui vont être heureux de voir le pape, puis d'autres que ça les indiffère. Moi, ça m'indiffère.
On poursuit la discussion avec notre collaborateur, le juriste Alexis Wawanolowat. Bonsoir, Alexis.
Quoi, Noémie?
Merci d'être avec nous. Donc, on attendait l'annonce officielle de cette visite du pape au Canada. Comment tu réagis à son choix de lieu, entre autres? Hein? On l'a dit, il va aller à Edmonton, à Québec et à Iqaluit. Est-ce qu'il fera des escapades dans les régions immédiates? On ne le sait pas, mais... Et aussi, c'est le Vatican qui a choisi les trois lieux de la visite. Qu'est-ce que tu en penses?
Bien, Iqaluit, on s'entend que c'est quand même bien qu'il ait rencontré une ville où il y a une majorité d'Inuits qui ont eu à subir les offres des pensionnats. À Québec, on m'a dit que c'était possible qu'il aille à Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré est un site très important pour les Premières Nations. Il y a beaucoup d'Inuits, d'Atikamekw qui vont en pèlerinage là-bas. Donc, je pense que dans cette mesure-là, pour les personnes pour qui ça a une importance d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est un site quand même qui est bien choisi.
Oui. Bien, il y a la Conférence des évêques catholiques du Canada qui organise, qui coordonne cette visite du pape au pays, qui souligne que ça pourrait être intéressant de voir se côtoyer des pèlerins autochtones et non autochtones à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un esprit qui est intéressant, c'est cet esprit d'échange dans un même lieu de pèlerinage?
Je pense que oui, pour le symbole, ça peut être intéressant. Puis des pèlerinages autochtones avec des pèlerinages non autochtones, c'est déjà quelque chose qui se fait beaucoup. Sainte-Anne-de-Beaupré a une représentation de la grand-mère de la Koukoum chez les Premières Nations. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi c'est une scène qui est importante, puis c'est un lieu de pèlerinage qui est important chez les Premières Nations. Donc, pour ceux qui ont une valeur dans ces symboles-là pour qui ça peut être utile justement pour leur guérison, puis pour les chrétiens, les catholiques qui vont là, non autochtones, qui vont là-bas, qui puissent avoir cette sensibilité-là, puis avoir l'ouverture, je pense que ça va être une bonne façon d'apprendre pour les personnes non autochtones, puis une bonne façon de pouvoir peut-être raconter leurs histoires aux personnes autochtones là-bas. Maintenant, au-delà de ces gestes symboliques-là, j'espère que la visite du pape va être synonyme d'engagement financier. On le sait, on a demandé à plusieurs églises, à l'Église, aux autres religieux, de mettre des compensations sur la table. Et il y a aussi plusieurs appels à l'action, dont des formations sur la violence spirituelle pour le clergé, pour ceux-là qui vont devenir curés. Et je pense qu'il serait intéressant de mettre en place, tel que ça a été demandé dans les appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation.
C'est quoi la violence spirituelle, Alexis?
Bien, la colonisation a plusieurs formes, hein? Donc, elle peut être économique, elle peut être territoriale, et dans la colonisation, la violence spirituelle qu'on a définie dans la commission Vérité-Réconciliation, bon, ben, c'était justement de mettre en place la religion catholique, de la démontrer qu'elle était supérieure aux autres et d'écraser la spiritualité que nous, les Premières Nations, on avait déjà. Donc, c'est pas pour rien que c'est un appel de la Commission Vérité et Réconciliation.
Donc, nous verrons s'il y aura une partie de ça qui sera réparée par la visite du pape. Merci beaucoup, Alexis, de nous en avoir parlé.
Oh, Léonie.
Beaucoup d'entre nous avons à cœur de poser des gestes concrets pour améliorer l'environnement. Eh bien, parfois, c'est dans l'inaction qu'on donne le meilleur coup de pouce. Un mouvement qui prend de l'ampleur invite les citoyens et les municipalités à ne pas tondre le gazon avant le mois de juin pour contribuer, entre autres, à la survie des abeilles. Fanny Lachance-Paquette explique.
Avec le retour du beau temps, vous avez probablement envie d'entretenir votre terrain, peut-être même de passer la tondeuse, mais le défi pissenlit ou le no-mow-mow vous encourage à attendre la première semaine de juin avant de faire votre première tonde de gazon. L'idée est simple, bien, c'est de laisser pousser les fleurs sauvages pour que les insectes pollinisateurs puissent venir s'alimenter. Et c'est un mouvement auquel participent de plus en plus de municipalités et d'arrondissements au Québec. Et c'est le cas ici de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
à l'initiative de notre équipe des parcs qu'on va repousser la tonte de gazon à la première semaine de juin, sauf dans le cas des terrains sportifs et aussi en bordure des allées de nos parcs. C'est certain que transition écologique, biodiversité, ça fait partie de nos valeurs.
Bien, au printemps, il n'y a pas beaucoup de ressources pour les insectes pollinisateurs. Il n'y a pas beaucoup de fleurs avec du nectar. Donc, au début, c'est super important pour plusieurs espèces d'abeilles d'avoir accès à ce nectar-là puis à du pollen parce que c'est le moment où elles vont fonder leur colonie, où elles vont pondre leurs œufs puis elles vont donner des réserves de pollen puis de nectar à leur progéniture. Au printemps, c'est critique. Après ça, si on veut tondre moins souvent tout au long de l'été, bien ça, c'est super.
Pourquoi c'est important qu'on donne de la nourriture aux abeilles puis aux pollinisateurs au printemps?
On dépend, en fait, des abeilles pour la pollinisation de nos cultures. Il y a 2 bouchées sur 3 qu'on mange qui découlent de la pollinisation par les insectes.
En ce moment, il existe des réglementations dans chaque arrondissement qui obligent les résidents à couper leur gazon lorsqu'il fait plus de 15 ou 20 cm selon les endroits. Et la Ville de Montréal me dit travailler en ce moment à trouver de nouvelles réglementations pour justement favoriser les pollinisateurs sur son territoire.
De toute façon, on ne peut pas dire que le plateau, c'est le royaume du gazon. Le taux de possession de tondeuse dans le plateau doit être assez bas. Ce qui fait que c'est sûr que l'enjeu n'est pas comme dans d'autres arrondissements ou dans des villes où il y a beaucoup de pelouse.
Donc, de là l'importance que ce soit l'arrondissement qui prenne ça en charge.
Oui, parce que là où il y a le plus de gazon, bien, c'est sur le domaine public, dans nos espaces verts.
C'est surtout important en ville, où il y a beaucoup de surfaces bétonnées, pas beaucoup d'habitats pour la nidification puis de ressources alimentaires pour les abeilles.
Puis est-ce qu'on a une politique à l'arrondissement pour justement favoriser les pollinisateurs autres que laisser pousser le gazon?
Bien, dans le plateau, depuis une dizaine d'années, on multiplie les saillies de trottoirs, évidemment à des fins de sécurité, mais c'est aussi une façon d'embellir nos quartiers et avec nos fleurs, les plantes, mais on attire aussi les pollinisateurs avec les saillies.
Culturellement, là, un gazon pas entretenu, c'est associé à la paresse, puis ça change là, en ce moment. Mais ce qui peut avoir l'air fou pour nous, les humains, c'est en fait un paradis pour les pollinisateurs. Un gazon tondu, c'est un désert alimentaire pour les abeilles.
J'ai contacté des entreprises d'entretien de gazon. Question de savoir s'il y avait des clients qui leur avaient demandé de reporter leur première tonte de gazon. Les personnes à qui j'ai parlé m'ont dit qu'il n'y avait eu aucune demande de ce genre pour le moment et ils m'ont même dit qu'il y avait une hausse de demande cette année pour les entretiens de pelouse.
Au retour, l'un des rappeurs les plus importants de sa génération lance son nouvel album. On en parle avec notre collaboratrice culturelle, Yara El-Swaydi, après la pause. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont ce qu'il faut pour être à la fois une tête d'affiche du méga spectacle de la mi-temps du Super Bowl et pour gagner un prix Pulitzer pour les textes de leurs chansons. En fait, il y en a un seul et c'est le rappeur américain Kendrick Lamar. Vous risquez d'entendre beaucoup parler de lui ces jours-ci parce qu'il sort un nouvel album aujourd'hui. On en discute avec la journaliste culturelle Yara El-Swaydi. Bonjour Yara.
Salut Noémie.
Donc, son nouvel album s'appelle Mr. Morale and the Big Steppers, son premier en 5 ans. Pourquoi est-ce que Kendrick Lamar est dans une classe à part comme rappeur?
Ce qu'il faut comprendre de Kendrick Lamar, c'est déjà, c'est un rappeur de la côte ouest américaine qui a grandi à Compton, donc une ville qui est comme reconnue pour ses rappeurs à la base, notamment N.W.A., Dr. Dre vient de là-bas. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est qu'à la place nécessairement d'aller dans le gangster rap, lui a décidé de faire une renaissance et d'utiliser les textes poétiques pour raconter la misère et les souffrances des Afro-Américains, ce qui l'a rendu extrêmement important.
Et cette dimension poétique, ça, c'est plutôt rare dans le rap actuellement?
Ce n'est pas nécessairement rare, mais c'est rare de voir un rappeur qui manie les mots comme Kendrick les manie. Le Pulitzer, dans le fond, reconnaissait cette façon de manier les mots et la poésie comme lui le faisait dans un genre de musique qui est plutôt urbain, dans lequel on ne le voit pas souvent. Puis c'est ça qui fait en sorte que Kendrick Lamar se distingue peut-être du reste.
Ouais. Et donc, ce nouvel album, premier en 5 ans, j'imagine que tu écoutes ça en boucle depuis qu'il est sorti?
Depuis minuit hier, je suis revenue d'un show. Le premier truc que j'ai fait, c'est mettre l'album. Puis oui, depuis ce matin, je l'écoute en boucle. J'essaie de comprendre les subtilités. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup, puis c'est extrêmement intéressant.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant?
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est notamment Kodak Black, qu'on retrouve dans l'album, ce qui était surprenant lorsqu'ils ont annoncé qu'ils faisaient une collaboration ensemble.
Parce... C'est un autre rappeur?
Oui, c'est un autre rappeur de la Floride. Lui est complètement à l'opposé de Kendrick Lamar, alors que Kendrick Lamar est cette figure de proue, cet homme qui est un activiste, qui veut changer les choses pour le mieux. Kodak Black, lui, est accusé de viol, d'assaut et même emprisonné présentement.
OK.
Ce qui fait en sorte que ça vient donner une autre dimension à l'album. Le titre de l'album, Mr. Morale and the Big Steppers, vient peut-être renforcer ça, The Big Steppers étant Kodak Black et okay. Mr. Morale étant...
Monsieur Moralité, monsieur... C'est ça. Bon garçon.
Kendrick Lamar dans ce cas-ci.
OK.
Puis ce qui est extrêmement beau aussi, c'est de voir la profondeur des paroles de Kodak Black dans certaines chansons, où il a l'air de faire une introspection sur qui il est, puis comment il s'est rendu où est-ce qu'il est, puis de voir Kendrick Lamar, dans le fond, dire qu'il est une personne comme tout autre. Donc, oui, il est peut-être Mr. Morale, mais il est aussi un peu un Big Stepper. Puis Big okay. Stepper, ça signifie, dans le fond, c'est quelqu'un qui a... un fusil dans sa poche arrière aux États-Unis. Donc, okay. c'est les opposés.
Il se remet sur le même niveau que les autres. Wow! Bien, il y a beaucoup de choses à explorer dans cet album-là. Merci pour cette introduction, Yara. On se retrouve bientôt.
Oui.
La pandémie a été tout un tremplin pour le musicien Damien Robitaille. Ses vidéos publiées en ligne ont été visionnées des centaines de milliers de fois et lui ont procuré un public international. Les restrictions sanitaires étant derrière nous, Damien Robitaille est maintenant en tournée au Québec pour toute la saison estivale. Voici Seb Lauzon.
Damien Robitaille, bienvenue à l'endroit qui sépare un peu le Québec, surtout la portion est que tu auras le plaisir de visiter pas mal cet été parce que tu fais partie de cette tournée du réseau d'été avec le Rosec. Tu en es même le porte-parole. C'est quoi exactement, d'abord et avant tout, le réseau d'été et le Rosec?
241 spectacles, dans 40 artistes différents et dans 25 lieux pittoresques à travers l'est du Québec. T'as des artistes plus établis, t'as des artistes de musique jazz, musique du monde, des spectacles enfants, puis des spectacles aussi, des artistes émergents. Moi, j'ai commencé ma carrière avec les tournées du Rosec, j'ai vu là comme 17 ans déjà, ça fait longtemps que je suis rendu un vétéran, mais c'est une belle façon de commencer sa carrière, de se faire découvrir.
Certaines de tes vidéos ont été relayées par des artistes internationaux, puis ça t'a donné beaucoup de visibilité. Qu'est-ce que tu retiens de ces moments-là? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus également?
C'est un thrill à chaque fois que quelqu'un de connu repostait mes vidéos. Ça m'a pris 9 ans, juste sur Instagram, d'avoir 8000 followers. Puis à un moment donné, l'an passé, quand j'ai fait le vidéo de Pump Up the Jam, puis là, il y avait Jennifer Garner, l'actrice qui a tout repartagé ça. Puis en 24 heures, j'ai reçu comme 10 000 followers de plus. C'est comme ça.
Là, tu as créé un monstre parce que tu repars en tournée, tu es en tournée présentement un peu partout au Québec, tu seras ici à Québec au cours des prochains jours, tu reviens au mois de juin, tu vas revenir également d'ici la fin de l'année dans des différentes salles aussi. Les gens ont envie de te voir, ont envie d'entendre tes chansons, mais là, maintenant, ils savent que tu es capable d'en faire 300-400 de d'autres personnes. Ça ressemble à quoi, le fameux show déconfiné de Damien Robitaille?
J'essaie de jongler le Damien... auteur-compositeur qui existait avant, parce qu'il y a bien du monde qui viennent voir le spectacle puis ils veulent entendre mes tunes. Mais aussi, il y a bien du monde qui viennent, ils veulent entendre les covers, les fameux covers. Alors là, je...
Prends-tu des demandes spéciales?
Ah oui, tout le temps. Moi, c'est ça qui est le fun. J'en connais plein. Alors là, quand les gens me pitchent des demandes spéciales, je suis seul sur scène, alors c'est la liberté. Je peux partir dans n'importe quelle direction. Hein.
Damien Robitaille, merci.
Ouais, merci beaucoup.
Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Noémie.
Alors, jugement de la Cour suprême important aujourd'hui au Canada. L'intoxication extrême mm-hmm. peut être utilisée comme défense quand on a commis un crime.
Oui, décision...
Quand on est accusé d'un crime.
Oui, bien repris. Décision rendue aujourd'hui donc par le plus haut tribunal au pays qui examinait trois cas, dont celui d'un homme de Calgary qui avait consommé de l'alcool puis de la drogue puis qui avait violemment attaqué une femme. Plaider l'intoxication extrême au pays, c'était interdit. Mais là, la Cour suprême a déclaré aujourd'hui que l'interdire pour certains actes, c'est inconstitutionnel. Pourquoi? Parce que la décision d'une personne de devenir ivre signifie pas qu'elle avait l'intention de commettre une infraction avec violence comme ça. Le criminaliste Walid Ijazi sera avec nous à 22h pour nous expliquer un peu les tenants et aboutissants de cette décision.
Ça va être utile, ça. Le débat en anglais qui devait avoir lieu dans la prochaine campagne électorale au Québec, bien, il n'y en aura pas. C'est annulé.
Il est annulé, le consortium là, des médias qui diffusait ce débat-là. On parle de CTV, de CBC, de Global, entre autres. Ils ont décidé de l'annuler parce que François Legault a refusé d'y participer. Il dit que c'est trop de temps de préparation. Il y a également Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait décidé de ne pas y participer.
Merci, Michel.
Bye-bye, bon week-end.
Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end.